Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Ok, c'est parti. Alors, on est déjà en live et c'est parti sur Zencastr. Je suis ravi de te retrouver ici, Pierre. Alors, Pierre Valade, on a fait un épisode au début, je dirais au début de Génération Do It Yourself. En tout cas, c'était il y a plus de 2 ans. C'était à New York. J'avais trouvé le bon filon, moi, pour aller faire des allers-retours à New York, tu vois. Et je me disais que le podcast, ça m'aidait bien. Donc, je comptais y retourner au mois d'avril. Et puis voilà, cette saloperie m'a empêché d'aller à New York. Donc, je suis un peu vénère. Je serais passé te voir. Mais bon, j'ai cette occasion de te voir. Salut Pierre, déjà.
Merci, salut.
On s'est quitté, nous, la dernière fois qu'on s'est parlé, je dirais en 2018, je pense, février, si je ne m'abuse. Je crois que tu étais encore chez Microsoft. Tu avais vendu Sunrise. Et tu as quitté Microsoft juste après, c'est ça, hein ?
Ouais, on avait vendu Sunrise, on a annoncé le deal en 2015, février 2015, et on avait un contrat de 3 ans avec Jérémy, donc on est tous les deux partis à peu près à la fin de ce contrat.
D'accord, et puis après t'as décidé de tourner les pouces, c'est ça ?
Pas exactement, parce qu'après j'ai directement retravaillé sur un projet. Je voulais relancer une startup et du coup, juste après en fait, dans la foulée, dans l'année 2018, j'ai commencé à travailler sur un nouveau projet et qui n'était pas Jumbo et qui était un autre projet. Et après, ça a devenu Jumbo parce que le premier projet marchait pas comme je voulais. Et voilà, donc un peu dans la foulée de Microsoft, j'ai commencé à retravailler sur un autre projet.
Ok, donc là on va juste préciser une chose, hein. C'est que tu es toi actuellement pas à New York, ce que je croyais avant de commencer cet épisode. On aperçoit peut-être un filet de lumière derrière toi au fond de ton épaule droite, à notre gauche pour nous. Et on voit un début de lumière, de crépuscule, je dirais. Donc toi, tu es parce que pour ceux qui écoutent ça en podcast, on est en live sur LinkedIn aussi. Tu es en Californie, là, c'est ça ?
Donc il est
15h en France, donc il est 6h du matin. Très bien. Donc on t'a réveillé un peu, donc on va te secouer un peu, c'est ce qu'on dit.
Okay.
Écoute, je suis content de te revoir là. Alors c'est vrai que... on avait fait un bon tour de ton background et de tout ce que tu avais fait jusqu'à Sunrise. Le sujet du jour qui nous a été soufflé, proposé par Zoé Villain, c'est donc votre nouvelle startup qui s'appelle donc Jumbo et qui est autour de la... Alors on parle de privacy, e-privacy. Je ne sais pas si on dit en français vie privée, alors parce que du coup... qu'on va parler de ta vie privée, c'est ça, aujourd'hui ?
Exactement. Ça intéresse tout le monde.
Et de la mienne aussi, du coup, et de la nôtre, c'est-à-dire de la vie privée de tout le monde. Donc, soyez prêts. Et voilà, et ce vaste sujet sur lequel, en fait, je me dis, bon, de loin, et alors depuis qu'évidemment on en a parlé avec Zoé, je regarde un peu, il y a pas mal d'articles qui disent que ça va être la vraie problématique, d'où le teaser de cet épisode sur LinkedIn, qui est la vraie problématique des années, de la décennie à venir, qui est un truc que beaucoup d'entre nous, moi en tête, ont un peu laissé de côté, parce qu'on se dit en fait, la vie privée, enfin... limite, il y a même pas mal d'articles que tu as dû lire de gens qui disent la vie privée, de toute façon, ça n'existe plus, quoi. C'était un concept d'avant.
Mais tu as un passcode sur ton téléphone. Là, si je prends ton téléphone, il y a un code pour le
oui.
Bloquer, non ?
Okay. Oui, bien sûr.
Donc, mais... et les textos que tu reçois sur ton téléphone, tu voudrais pas qu'on les lise à l'antenne ?
Non, tout à fait.
Donc en fait, tu tiens, à mon avis, comme la majorité des gens, à ta vie privée. Et le sujet... du moment, en fait, c'est un sujet qui est assez lié à ce qu'on essaie de faire finalement avec Sunrise aussi. C'est un sujet de de convenience, est-ce que c'est pratique en fait? Est-ce que face au choix vie privée par rapport à la simplicité, lequel tu choisis? Et en fait, c'est un peu le choix en fait aujourd'hui. Le problème, le problème est en fait qu'on a, on les plateformes nous disent soit ça va être simple et vous devez renoncer à votre vie privée, soit vous avez votre vie privée, mais ça va être énormément de boulot pour vous d'aller checker les settings, d'aller comprendre tous les paramètres, d'aller protéger votre compte, d'aller supprimer vos contenus quand vous voulez plus qu'ils soient sur les plateformes. Et donc en fait, c'est sûr que si on dit la question, c'est soit simplicité, convenience ou vie privée, les gens vont aller vers la simplicité et la convenience. Ça, il n'y a pas de débat. Par contre, si on demande dans l'absolu, est-ce que vous voulez avoir un espace de vie privée sur Internet, est-ce que vous voulez contrôler où vont vos data, qui peut les utiliser, qui a la permission d'accéder à vos data, les gens disent oui, mais il faut que ça soit pratique. Et c'est justement ce que nous, on essaie de faire avec Jumbo, c'est de rendre un sujet qui est très compliqué, la gestion de sa vie privée sur Internet, donc que personne ne fait, parce que quand un truc est très compliqué, personne n'a envie de le faire. C'est comme quand on doit faire ses taxes tout seul, c'est comme si on devait lire soi-même les résultats d'examen quand on va à l'hôpital, c'est comme, enfin, c'est compliqué. De lire un bouquin de 400 pages, c'est compliqué. Et donc, la vie privée, c'est la même chose. La vie privée sur Internet, c'est compliqué quand on doit le faire soi-même. Mais justement, avec des outils comme Jumbo, ça peut devenir simple. Et donc, l'idée, c'est que si ça devient simple, en fait, les gens ayant envie de le faire naturellement, mais ils avaient juste, on a juste un peu tous collectivement lâché l'affaire puisque c'était trop compliqué, et ben en fait, on revient à faire quelque chose qu'on avait envie de faire dès le début. Et je pense que c'est ça, à mon avis, le sujet. C'est pas que toi ou d'autres personnes n'ont pas envie de savoir où vont tes datas ou que tu serais capable de unlocker ton téléphone à tout le monde qui te le demande ou à lire tes textos à l'antenne. C'est juste que, effectivement, tu n'as pas le temps tous les jours de penser à ce sujet-là. Et c'est tout à fait normal. Même si c'est un sujet important pour toi, si à chaque fois que tu devais sortir de chez toi, tu avais 25 clés, et tu devais trouver la clé qui, en fait, te fait fermer ta porte, tu ne fermerais pas ta porte. Même si tu as très envie que personne rentre chez toi, le problème, c'est que si à chaque fois que tu sortais de chez toi, tu avais 25 clés à essayer pour loquer ta porte, et qu'à chaque fois, c'était une clé différente, et que tu ne pouvais pas te souvenir de quelle est la forme de la clé et quelle est sa couleur, tu ne fermerais pas la porte de chez toi. Ça te prendrait juste trop de
Aurélie,
temps.
Aurélie en régie digitale dans mon oreillette me dit qu'il faudrait que tu éloignes un tout petit peu le micro de ta bouche,
Pardon,
un
ok.
petit peu. Voilà.
Voilà.
Ouais, c'est une question de UX, en fait, d'expérience utilisateur.
Exactement.
Et est-ce que tu dis là-dedans que tous ces, alors tous ces toutes ces des boîtes digitales font exprès de complexifier tout ça, ou alors elles ne font pas, elles ne cherchent pas à le simplifier exprès parce que ça les arrange bien?
Bah, je sais, je peux pas donner des intentions sur ce qu'elles font. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde leurs incentives financières, elles sont pas alignées avec celles de l'utilisateur de la plateforme. Puisque quand vous êtes utilisateur de Facebook, de Twitter, c'est un peu différent sur LinkedIn parce que vous pouvez payer pour LinkedIn. C'est pas vous qui payez Twitter, c'est pas vous qui payez les factures de Facebook, c'est les annonceurs. Et donc c'est sûr qu'en tant que business qui doit faire de l'argent, ce qui est tout à fait logique de la part de Facebook, ils ont jamais prétendu qu'ils n'étaient pas une boîte for profit, comme nous d'ailleurs, ils sont incentivés à plaire à les annonceurs qui sont les clients. Et aussi, dans une certaine mesure, à leurs utilisateurs, parce qu'ils veulent quand même que l'utilisateur reste pour que les annonceurs aient des gens à qui annoncer. Mais ils ont vraiment d'abord comme clients leurs annonceurs. Et donc, c'est sûr que les settings de confidentialité qui vous permettent de réduire le targeting que vous pouvez avoir sur Facebook, c'est pas dans l'avantage de Facebook en tant que business directement. Donc j'imagine que chez Facebook, il y a des gens qui travaillent sur la vie privée et qui disent ça serait bien de faire ça, et des gens qui travaillent au business qui disent ah non, en fait, ce serait bien que ce soit un peu plus difficile de faire ça. Et je sais pas comment ils résolvent en interne ces discussions, mais c'est sûr que d'un point de vue incentive économique, tout le monde qui travaille chez Facebook n'est pas incentivé à ce que vous changiez vos paramètres de confidentialité pour limiter le tracking comme vous pouvez faire avec Jumbo. Et
Parce qu'on est d'accord que sur un Facebook, pardon, alors comme sur d'autres, hein, mais ils savent à peu près toujours, à partir du moment où tu as l'application installée sur ton smartphone, où tu es. Ils savent à peu près toujours, ils savent quel smartphone tu as, quand est-ce que tu en as changé. Ils savent évidemment les relations que tu as avec les gens, avec qui tu chattes sur Messenger, probablement des liens évidemment avec Instagram et WhatsApp. Donc les échanges que tu as avec différentes choses, les marques que tu cites, les pages que tu visites sur ces plateformes au moins. Donc du coup, plein de centres d'intérêt. Qu'est-ce qui disait ça ? C'est que quand tu likes 50 pages sur Facebook, Facebook te connaît mieux qu'un de tes potes. Quand tu likes 100 pages, c'est mieux que, je sais plus, tes parents. Et 150 ou 200, c'est mieux que ton conjoint, quoi. Donc, du coup, Facebook, très vite, te connaît mieux que n'importe qui. Et notamment, alors, sur des tas de données, en effet, enfin, à la limite, la géolocalisation, je pense qu'on l'a tous vu. On s'y attend tous, on le comprend. Mais en effet, les données de... en fonction des endroits où tu t'es logué, sur quel smartphone, etc., ils peuvent te prédire en moyenne, mais la moyenne, elle est potentiellement à quelques jours près que tu vas changer de téléphone, quoi. Et quelle marque de téléphone tu pourrais être, sur laquelle tu pourrais être intentionniste, quoi. Quelque chose comme ça, non ?
Oui, je pense que le sujet de la vie privée, en tout cas, notre point de vue, c'est pas à Facebook ce qu'ils font, c'est pas bien, ou ce qu'un autre fait, c'est mieux. Le problème pour nous, c'est un problème de contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème à ce que Facebook ait votre location si vous êtes d'accord avec Facebook qui a votre location. Si Facebook a une fonctionnalité qui vous permet de retrouver vos amis autour de vous et que vous activez cette fonctionnalité en comprenant que vous êtes en train de partager cette information-là avec Facebook, très bien. Vous êtes en train d'utiliser un service. De la même manière que si vous décidez d'utiliser YouTube et que YouTube collecte la liste de vos recommandations pour vous proposer des vidéos qui sont pertinentes par rapport à ce que vous avez déjà regardé, très bien, vous êtes au courant de comment ça se passe. Le problème aujourd'hui, c'est ce qu'on voit avec quand les utilisateurs arrivent sur Jumbo la première fois sur leur téléphone, sur Android ou sur iOS, c'est qu'en fait, ils scannent leur compte Facebook avec Jumbo. Et là, ils se rendent compte en fait qu'il y avait des informations qui étaient partagées avec Facebook dont ils n'avaient aucune idée que c'était le cas. Et pour nous, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est pas en soi le fait que vous partagez vos données, n'importe quel type de données d'ailleurs, avec un service. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas au courant que ce service les collectait, pas forcément à votre insu, mais en tout cas, vous n'étiez pas au courant, c'était pas clair qu'ils collectaient ce type de données. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient de ces datas ? Est-ce qu'il en crée un profil sur vous pour après vous matcher sur des publicités ciblées ? Est-ce qu'il parfois, comme on a vu sur LinkedIn, peut partager ses datas avec des plateformes tierces ? Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez l'impression, vous savez même pas que vous partagez vos datas avec LinkedIn, mais en plus, LinkedIn les partage avec des gens que vous connaissez pas. Et donc, c'est une question de contrôle, en fait. C'est pas une question de les datas c'est bien, les datas c'est pas bien.
Non, moi j'avais pas de attention, j'avais pas de jugement de valeur.
Non, c'est souvent...
des maisons que je connais bien, mais je dis juste que en expliquant ça, on peut informer, et c'est aussi un peu le rôle, j'ai l'impression, de Jumbo et de ce que tu fais là, c'est de dire en fait quand tu onboardes et qu'on utilise ton app, évidemment on voit très vite, ah tiens, oui, c'est vrai qu'il donne ça, et en fait tu choisis si oui ou non tu es OK pour donner la localisation, et si après oui ou non tu es OK pour que cette localisation soit donnée à des tiers, quoi. C'est déjà au moins c'est une forme de d'éducation, on va dire, à tout ça, c'est ça.
Voilà, de savoir ce qui se passe et de ensuite pouvoir contrôler si on est d'accord avec ce qui se passe. Et c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est vrai que si on revient au sujet de simplicité dont on a commencé à parler, c'est la clé en fait pour nous du problème, c'est est-ce qu'on est capable de créer un produit qui est suffisamment simple pour que du coup en fait ils vous prennent pas de temps à manager, parce qu'on sait très bien encore une fois que si les gens doivent choisir entre la convenience et la vie privée, ils vont choisir la convenience. Moi-même, je choisis la convenience. Par contre, si on vous arrive à vous donner...
La simplicité, je traduis.
La simplicité, exactement. Ouais. Et donc, on doit créer un outil qui est aussi simple que l'alternative. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Jumbo. Et je pense que c'est pour ça que ça marche, parce qu'on prend une approche qui n'est d'ailleurs même pas de vous dire arrêtez d'utiliser ces plateformes. Parce qu'on pourrait dire pourquoi ne pas dire utiliser d'arrêter ces plateformes, utiliser Internet. Finalement, ça réglera le problème de vie privée sur Internet. Mais évidemment, c'est pas une solution pratique. Et même le fait au-delà de même pas utiliser Internet, mais d'arrêter d'utiliser Facebook ou Google ou ces outils-là, Dans la réalité, en fait, c'est impossible. Et donc, nous, ce qu'on permet, c'est aux gens qui veulent continuer d'utiliser ces produits-là, de quand même mieux contrôler et de mieux savoir ce qui se passe sans passer beaucoup de temps là-dessus. C'est pour ça qu'on a designé Jumbo comme, en fait, un peu deux temps dans le produit. La première, c'est tu setup tes comptes la première fois. Et après, en fait, il y a tout un système de monitoring qui se passe dans le background. Même quand tu n'utilises pas l'app, on continue à monitorer tes comptes connectés à Jumbo et on t'alerte si jamais il y a quelque chose qui a changé que tu devrais savoir.
Ouais, aux gens comme moi qui te disent finalement de base, non mais moi à la limite fair enough, je leur file tout ça parce que vu ce qu'ils me donnent gratuitement, même s'ils font du business derrière, enfin je m'en fous un peu en fait, tu vois. Toi tu dis bah oui, mais en fait tu peux assez facilement désormais leur donner moins ou contrôler ce que tu donnes. Alors évidemment, après j'ai déjà quelques questions qui montent, mais évidemment là-dessus la question, c'est quand même, même si toi tu te mets pas en opposition, je l'ai bien compris, et y a peu d'intérêt à, voilà, parce qu'en effet, on a plein de super services qui nous sont proposés, qu'on utilise, sur lesquels on passe plein de temps dans la journée. Enfin, la vie sans Google et Google Maps et Waze et voilà, ce serait peut-être pas aussi cool ou simple en tout cas. Mais t'es quand même, hein, tu crées quand même une sorte de poil à gratter. Si eux font pas cette UX simple dans tout ça. C'est qu'ils ont cette raison et toi tu vas faire un seul endroit où on peut simplifier tout ça et dire non mais tout ça j'arrête. Donc si Jumbo marche très 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 fort, ce que je te souhaite, il y a un moment où ça va pas leur plaire parce que justement ils auront plus assez de données pour leurs annonceurs pour vivre en fait, si.
Alors, je sais pas si ça remet en question tout le business model de Google et je sais pas s'ils ont fait des études de ce qui se passerait s'il y avait des publicités qui étaient plus contextuelles. C'est-à-dire quand tu tapes voiture dans Google, il t'affiche des vidéos ou des ads pour les voitures sans avoir besoin de ton historique de recherche ou des dernières vidéos que tu as regardées sur YouTube. Et
Oui, mais sans pouvoir t'en afficher pendant les 3 semaines qui suivent aussi, du coup.
oui, absolument.
Là, tu perds forcément de la valeur.
Je pense qu'il y a une perte effectivement de valeur pour ces plateformes. Quand elles sont restreintes dans les données qu'elles utilisent. Après, est-ce que ça veut dire que c'est pas un bon business? Je pense qu'il y a une perte de profit dans l'industrie chimique quand on t'impose de contrôler tes déchets d'une certaine manière. Je pense qu'il y a des pertes d'argent dans le nucléaire quand on dit bah les déchets nucléaires, en fait, au lieu de les remettre dans la rivière à côté de la centrale nucléaire, on doit les mettre ensemble, on doit les protéger, on doit les mettre dans un train, on va les enterrer sous le sol. On perd de l'argent là-dessus. Et je pense que quand on fait la maintenance des avions, on perd plein d'argent à remplacer des pièces dans des avions, alors qu'on
Qui marche
pourrait,
encore?
qui marche peut-être ou qui marcherait peut-être, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on a décidé comme contrat social. On a dit les roues, il faut les maintenir avec tel critère de maintenance. On a dit les déchets nucléaires, il faut les enlever et pas les mettre à côté, mais il faut les enterrer. Et c'est pareil sur plein de sujets, en fait. Il y a plein de sujets où on n'optimise pas uniquement pour le rendu économique. Et encore moins pour le revenu économique d'une société. Donc, à partir du moment où vous considérez que les data, c'est à vous, en fait, c'est pas à Facebook, c'est pas à Google, c'est à vous, vos data, ce que vous faites sur Internet, qui vous appelez, votre vie, en fait, c'est à vous, c'est pas à quelqu'un d'autre. Donc, nous, on considère que un outil qui travaille pour vous, comme Jumbo, au sens où on est payé par nos utilisateurs et par personne d'autre. Donc, notre incentive économique, parce que je reviens à ça, parce que je pense que c'est un point important, notre incentive économique, c'est de faire le meilleur produit pour nos utilisateurs. Parce qu'on ne collecte pas la data, on ne vend pas la data, il n'y a pas d'autres partenaires économiques dans l'équation Jumbo, il n'y a que Jumbo d'un côté et l'utilisateur. Comme quand vous allez chez le docteur, vous payez le docteur et le docteur travaille pour vous, ou si vous allez et un jour vous avez besoin d'un avocat. Vous n'auriez pas envie que l'avocat soit payé par la partie adverse. Ça n'aurait pas de sens. Et donc, c'est ce qu'on essaie aussi de créer, ce concept de représentant numérique, en fait, de Jumbo qui vous accompagne dans votre vie numérique et qui, parce qu'il est payé par vous, in fine, alors il y a une offre gratuite, mais in fine, il est payé par ceux qui sont les clients, comme dans n'importe quel produit SaaS, comme pour Spotify, comme pour Netflix, comme on va au restaurant, on mange pas gratuitement. On comprend du coup qui est le client chez nous et nous, notre seul but, c'est de le représenter le mieux dans sa vie digitale et de l'aider à contrôler la data qui est collectée sur lui. Après, il y a aussi d'autres fonctionnalités de Jumbo sur la sécurité et sur la suppression de contenu. Il y a plein d'autres choses maintenant qu'on a dans Jumbo et pas seulement ce avec quoi on avait commencé, qui était justement le scan des privacy, des paramètres de confidentialité sur les grandes plateformes.
On a Tom Mpanjo, j'espère que je prononce bien ton nom, Tom, qui nous pose la question après avoir fait un commentaire sur mon micro rouge, mais j'ai une drôle de lumière, il est rose en fait. Il me dit, c'est pour ça que Gaspard Koenig propose que les internautes soient rémunérés par Facebook et Google, car c'est nous qui les rendons riches. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que la notion de monétisation des data est un sujet... assez compliqué. On nous a souvent posé la question chez Jumbo, est-ce que ça deviendra un jour un portefeuille où j'aurai toutes mes data et je pourrai les vendre. Moi, je pense que c'est assez, ça me paraît pas quelque chose sur le court terme. Je pense que ces plateformes-là ont un business model qui repose sur le fait de collecter vos data. Et d'une manière ou d'une autre, pas directement, mais de les revendre aux annonceurs. Ça veut dire forcément que les annonceurs ont accès à la data brute, mais en tout cas, ils peuvent vous afficher des pubs qui sont conditionnées sur la data brute qui est récoltée, votre âge, effectivement, ce que vous aimez dans la vie, etc. Et en soi, encore une fois, tant que tout le monde sait ce qui se passe et que tout le monde sait ce qui est collecté sur lui et comment la data est ensuite utilisée, et évidemment, après, on se peut poser la question des dérives que ça amène sur les interférences d'élections, sur la promotion des contenus haineux, etc. etc. Mais il y a, a priori, le modèle, pourquoi pas, moi j'ai pas de problème avec ce modèle-là, on a accès à un service gratuit donc, en échange, il y a une partie de nos data qui sont monétisées.
Nous, là, quand le service est gratuit, c'est que le produit c'est toi, hein, c'est ce qui se dit, c'est ça?
Oui, et c'est vrai puisque le et encore une fois c'est pas surprenant et c'est pas choquant. Ce qui est plus choquant de notre point de vue, c'est quand encore une fois les data sont collectées sans que les gens sachent exactement ce qui est collecté sur eux et comment cette data est utilisée. Et donc c'est effectivement nous notre but, c'est de rendre ça simple. Et actionable, c'est-à-dire qu'on peut avec Jumbo, on peut non seulement savoir ce qui se passe, mais on peut aussi dire ça, je veux que ça s'arrête. Et donc l'idée de monétiser les data, j'ai pas réfléchi énormément au sujet, j'ai réfléchi beaucoup moins que le philosophe Gaspard sur ce sujet-là. Mais moi, ça me paraît à court terme compliqué.
Ouais, parce qu'il y a des choses hein, que j'ai vues en testant Jumbo, notamment par exemple, tu me proposes d'archiver tous les posts et toutes les photos de Facebook. Alors, ça doit être pareil sur Twitter aussi, mais d'il y a plus d'un an par exemple. Mais ça, tu les archives, mais chez toi. C'est-à-dire que l'archive, elle se fait pas, enfin, chez Jumbo ou chez moi en local, mais en local, d'accord, mais pas sur Facebook. Donc après, elles ne sont plus disponibles chez Facebook. Celles-ci, Facebook ne les a plus ou elles les ont encore, mais en archive, mais ils ont pas le droit de les toucher. Si je veux les réactiver, comment ça se passe?
On demande à Facebook au nom de l'utilisateur de les supprimer. Donc je pense que normalement, ils doivent les supprimer. On n'a pas moyen de vérifier, mais il n'y a pas de raison de croire que c'est pas le cas. Donc elles sont plus disponibles sur Facebook. Ça fait partie d'une série de fonctionnalités qu'on a effectivement sur Facebook, qu'on a maintenant sur Instagram et qu'on a aussi sur Twitter, qui permet aux utilisateurs de décider d'expirer en fait les contenus qu'ils ont postés sur ces plateformes-là à partir d'une certaine date. Par exemple, moi j'utilise Jumbo pour archiver mes tweets sur Twitter, c'est-à-dire ça les enlève de Twitter, ça les supprime de Twitter. Mais ça les met dans mon vault, dans mon coffre-fort sur Jumbo, sur mon téléphone. Et donc, je peux regarder mes anciens tweets, juste pour moi, dans le vault, sur mon application Jumbo.
Et si je change de téléphone ?
Alors, c'est aujourd'hui, si tu changes de téléphone et que tu as déjà la backup d'Apple, par exemple, ouais. Ça va automatiquement être passé sur le téléphone d'après, comme les photos. Si tu vas garder tes photos, tu vas garder tes contenus Jumbo parce que Apple iCloud, ouais. Sauvegarde exactement tout avec iCloud. Et on travaille justement cet été sur une intégration avec Dropbox en plus pour pouvoir aussi mettre ses contenus directement sur Dropbox. Et ça, ça nous amène un point qui est un peu technique, mais qui est un point important pour nous, qui est le fait que Jumbo, la manière dont ça fonctionne techniquement, c'est que, en fait, quand vous interagissez avec, par exemple, Facebook et Jumbo, Jumbo en tant que compagnie n'a pas de serveur qui est entre vous et la connexion avec Facebook. C'est-à-dire que quand on va supprimer le contenu chez Facebook ou changer vos settings de confidentialité chez Facebook, ça se fait directement, la technologie est directement sur votre téléphone et c'est votre téléphone qui va discuter avec les serveurs de Facebook directement. Ce qui fait que nous, en tant que société, on n'a pas accès en fait à vos data. Et donc, d'un point de vue sécurité slash vie privée, la technologie qui est sur le téléphone de Jumbo amène un degré en fait de confiance dans le produit qui est haut parce qu'on n'a justement pas ce problématique de données qui transiteraient via les serveurs de Jumbo. Donc ça, c'est aussi une innovation technique.
Comme tu le dis, ça peut aller sur les serveurs de iCloud, enfin de Apple ou de Dropbox, mais c'est à ton choix, c'est ton arbitre de te dire je veux les mettre ailleurs, quoi. Et vous n'avez pas de vision là-dessus de dire il vaut mieux les mettre sur ça ou ça parce que ça c'est plus sécurisé. Enfin, c'est pas votre business, quoi.
Alors, on pourrait donner des informations si on a des plateformes qui sont plus sécurisées que d'autres, mais après c'est des gens qui décident est-ce qu'ils veulent effectivement mettre les contenus une fois qu'ils les ont enlevés des plateformes. Maintenant, ça fait presque plus de 10 ans que on est tous sur Facebook. On a ajouté beaucoup d'amis au fur et à mesure du temps qui ont du coup accès par défaut à nos posts sur notre timeline. Souvent, quand on revient dans notre timeline de 2008, quand il n'y avait pas les messages privés sur Facebook et qu'on s'envoyait tous des messages sur notre wall, c'est comique, quoi. C'est comique. Ouais. Mais parfois, c'est pas cool.
Triste.
Quand on cherche un boulot. Bah, c'est juste que voilà, on se souvient même plus qu'on a mis tout ça sur Internet. Parfois, il y a des commentaires qui sont sexistes, parfois, il y a des commentaires qui sont racistes, qui sont juste des blagues, mais qui sont sortis de leur contexte, peuvent détruire une réputation. Alors que moi, je considère que ce qu'on dit quand on a 15 ans ou quand on a 16 ans, ça ne doit pas venir nous hanter quand on cherche un travail à 26 ans.
Et sachant que, comme tu le dis, là, c'est important ce que tu dis sur les 15-16 ans parce que. Alors, dans moi, je suis quarantenaire, je veux dire, à la limite, à l'époque, je bossais déjà. J'étais peut-être déjà un peu conscient de tout ça, plus ou moins. En tout cas, quand je postais des choses publiques, j'étais dans le digital. Bon, mais en effet, quand t'as 30 ans et que t'es ou 25 ans et que t'es sur Facebook depuis que t'as 12 ans ou 13 ans, a priori, ouais, au collège et machin, que ce soit les photos ou les commentaires que t'as fait. Un peu débilos, tu peux te dire en effet, c'est pas con de tout supprimer. C'est pas si simple à faire depuis la plateforme Facebook, c'est ce que tu dis aussi. Enfin, faut les faire un par un ou faut.
La dernière fois que j'ai regardé, effectivement, fallait les faire un par un. Encore une fois, ce qui revient à nos problèmes de départ, qui était, nous, il y a beaucoup de gens qui chez Jumbo qui installent l'application parce qu'ils avaient déjà envie de supprimer leur compte Facebook, leur photo Facebook, et que justement, ils voulaient pas supprimer leur compte. Mais le fait qu'ils voulaient déjà supprimer leur photo, c'est pas quelque chose que Jumbo a amené dans l'univers des possibles. Ils voulaient déjà le faire. C'est juste que effectivement, ça prenait 4 heures. Il fallait, en gros, prendre un bon samedi après-midi et aller taper sur les photos une par une. Et si tu rajoutes le fait qu'en plus tu voulais les télécharger avant, soit tu le faisais une par une, soit tu les téléchargeais tous, mais c'était en plus plus compliqué. Donc en plus, soit tu les perdais complètement, soit si tu voulais les sauvegarder avant, c'était encore plus de temps qu'il fallait passer dessus. Et en plus, il faut le faire de manière récurrente si jamais tu veux cleaner derrière toi, quoi. Si tu veux continuer à passer du temps sur Facebook à poster, mais qu'un mois après, tu veux que ça s'enlève, eh ben, il faut y penser, faut se mettre un reminder dans le calendrier toutes les 4 semaines d'aller cleaner derrière soi. Et en fait, du coup, c'est encore une fois pas quelque chose que les gens ne voulaient pas faire, ils voulaient le faire, c'est juste pas du tout pratique. Et nous, on a créé cet outil donc dans Jumbo, on en tape. Une fois qu'on est connecté sur Facebook, on dit, moi par exemple, je t'ai dit, c'est mes tweets. Mes tweets, au bout d'un mois, hop, c'est parti et ça va dans Jumbo et c'est plus sur Twitter.
Ok. Compris, je trouve ça intéressant en effet sur les tweets en particulier où tu peux mettre des grosses conneries sur Twitter. Il y a bien longtemps.
Et voilà, c'est dommage que ce service-là ne soit pas intégré dans les plateformes. Ça devrait être intégré dans les options pour Facebook ou pour Twitter. Et donc, c'est ce que nous, on apporte ce qui manque, en fait, dans ces plateformes-là pour mieux contrôler sa vie privée.
Alors, j'ai des questions qui arrivent. Alors, notamment, avez-vous une vision pour un ciblage publicitaire plus responsable de la vie privée et plus éthique? Et peut-être une solution pour résoudre le privacy paradox et le biais d'information et de connaissance par rapport aux enjeux de la protection de cette vie privée en ligne?
Oui, absolument. On a d'autant plus que nous, Jumbo, en tant que business, on fait de la publicité sur Internet. Donc, on s'est évidemment posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait de la publicité sur Internet, où est-ce qu'on met la limite dans ce que l'industrie fait, qui pour nous va trop loin, et ce qui est raisonnable de faire. Et donc, par exemple, un des points qui est important pour nous, c'est que aujourd'hui, quand vous cliquez sur une pub sur Facebook, en fait, la plateforme sur laquelle vous allez aller, par exemple, imaginons c'est une app. Vous cliquez sur une app pour une pub, pardon, pour un jeu vidéo. En fait, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, en vaste majorité, c'est que quand vous cliquez sur cette pub, vous arrivez sur la page du jeu vidéo, vous téléchargez ce jeu vidéo, et ensuite ce jeu vidéo va partager avec Facebook des informations en disant cet utilisateur, c'est un bon utilisateur pour moi. Parce qu'il a par exemple dépensé dans mon application de jeu vidéo. Donne-moi des gens qui lui ressemblent.
Les look-alike. Et donc, en fait,
les look-alike, exactement. Qui sont basés sur les datas que Facebook n'a pas sur vous, mais qui sont en fait données par les services qui veulent faire de la publicité sur Facebook, qui du coup donnent les datas à Facebook en disant « lui, c'est un bon utilisateur pour moi ». Et cette boucle en fait de feedback des datas qui en fait passe d'une publicité à une app, mais l'app qui ensuite repartage vers Facebook, cette boucle-là, on considère que c'est pas quelque chose qui est sain. Parce que
ce qu'on va appeler, si tu me permets, pardon Pierre, avant de que tu continues, c'est ce qu'on va appeler les jumeaux numériques, hein, pour aussi de l'expliquer d'une autre manière, c'est-à-dire on va se dire, je cherche des gens qui sont soit dans cette tranche d'âge, qui ont ces centres d'intérêt, qui ont un téléphone depuis, je reviens sur ces téléphones, mais depuis tant de trucs, qui sont sur Android depuis telle chose et qui machin et truc, et donc du coup je voudrais leur pusher un truc qui fait, je sais pas moi, une app de finance sur Android et qui est hyper machin. Et donc du coup, ben, si t'es un jumeau numérique, donc tranche d'âge, parisien, homme, machin, avec tel potentiel revenu parce que tu vois, ou comme t'as cherché telle ou telle chose, t'es probablement un enfant, deux enfants, trois enfants, parce que sur les 3 années derrière, on voit, ou les 8 années que t'as cherché à 3 reprises des couches, etc., ben, on va te faire des jumeaux numériques très pointus et on va pouvoir te pousser un certain nombre de pubs comme ça. C'est un peu ça.
Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est plus des critères qui sont explicites, comme tu viens de dire, des critères d'âge, des critères démographiques. C'est comme ça que ça se passait en fait avant. Et maintenant, depuis Facebook, en fait, ce qui se passe, c'est que au lieu que ce soit des critères explicites de démographie, c'est en fait les annonceurs, donc l'application dans mon exemple de jeu vidéo, qui veut annoncer sur Facebook, qui va envoyer à Facebook des informations sur qui sont ses meilleurs utilisateurs. Ouais. Et en fait, c'est les algorithmes de Facebook qui vont automatiquement, avec les look-alike audience, donc les audiences similaires, trouver des gens qui sont similaires, mais pas forcément par rapport à des critères explicites, mais par rapport à ce qu'ils savent, en gros en machine learning, comme caractéristiques qu'ils vont extraire, qui ne sont pas forcément des caractéristiques démographiques, des meilleurs utilisateurs qui sont déjà dans ce jeu. Et nous, le problème qu'on a avec ça, c'est qu'en fait, on a du coup une application de jeux vidéo qui partage des données avec Facebook, qui en fait complète votre profil vis-à-vis de Facebook.
Ouais.
Et donc en fait nous c'est cette question en fait de partager les datas avec Facebook qui nous embête et pas du tout la question de la vie privée en ligne ou de faire de la publicité sur internet. C'est-à-dire qu'on peut faire de la publicité en traquant par exemple le succès d'une campagne à l'échelle d'une campagne sans avoir en fait comprendre qui est la personne qui a cliqué sur cette campagne. Et comment est-ce que je rentre ces datas, cette personne-là, à nouveau chez Facebook, par exemple. Et d'ailleurs, c'est un des points qui est le plus surprenant dans la plateforme chez Facebook, c'est que en fait, ils récoltent les datas pas seulement quand vous êtes sur Facebook. Ça, vous le comprenez, vous utilisez Facebook, c'est normal, vous partagez quelque chose sur Facebook, ils peuvent collecter des datas sur ça. Mais quand en fait, vous utilisez une app de méditation et en fait, elle partage ces datas-là. Alors, par exemple, combien vous avez payé à Facebook pour pouvoir optimiser le modèle de distribution de publicité. Et donc ça, c'est pour nous, c'est la ligne rouge à pas franchir. C'est de nous, si on fait de la publicité sur Internet, ce qu'on fait aujourd'hui pour promouvoir notre produit, on ne repartage pas des données identifiables à l'utilisateur pour améliorer les modèles de targeting sur les utilisateurs de chez nous. Et donc on a déjà identifier notre règle sur ce qu'on veut faire quand on fait de la publicité. Et on peut faire en fait de la publicité à l'échelle de la campagne. Et d'ailleurs, on pourra peut-être en reparler parce que ça va être un gros changement sur iOS 14 qui arrive en septembre. Mais en fait, Apple a complètement changé avec iOS 14 les règles du jeu justement sur la publicité et le ciblage sur Internet à partir d'iOS 14 qui arrive mi-septembre. Et donc en fait, on va naturellement assister à un bouleversement pour ceux qui travaillent dans la publicité de tout le ciblage publicité, en tout cas mobile, puisque Apple a en gros essayé justement de eux aussi mettre le curseur entre la publicité et les datas de ses utilisateurs, en tout cas des utilisateurs qui utilisent des téléphones.
Ça veut dire qu'ils vont être plus laxes sur les... Parce que justement, Apple était connu pour être pour même taper un peu sur Google et Facebook en disant « Vous êtes pas, vous balancez, vous partagez vos datas, vous faites n'importe quoi, je gagne moi, je gagne pas d'argent sur la data, je suis Apple », c'était un peu le discours. Là, tu es en train de dire qu'ils vont, ils vont basculer du côté obscur de la pub ?
Ah non, non, ils vont au contraire. Ils ont tout, ils ont tout lockdown.
Ok.
Ouais. Et donc,
et ça va dans ton sens, toi, avec Jumbo, ça ou pas ?
Bah nous, tout ce qui est bon pour la vie privée, c'est bon pour nos utilisateurs. Donc, en fait, nous, en fait, ça va dans notre sens, évidemment, parce que un, le fait qu'Apple push le sujet de la vie privée sur Internet, c'est quelque chose qui va éduquer nos utilisateurs, qui va éduquer le marché. Donc, de manière générale, c'est une bonne chose. Là, je parle d'un point de vue business pour nous. Après, évidemment, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue éthique, c'est génial que Apple donne plus de contrôle sur la plateforme. Mais aussi, c'est important pour nous en termes de société, puisque avant, justement, quand on voulait, ce qui est le cas d'ailleurs aujourd'hui, quand on veut faire de la publicité sur Internet, on est aujourd'hui désavantagé. Parce qu'on collecte moins de data sur vous et on en partage moins avec les plateformes. Et donc, du coup, en fait, on espère qu'avec les changements, justement, tout le monde va jouer avec les mêmes règles du jeu que nous, on s'est imposé aujourd'hui. On s'est imposé ces règles du jeu-là parce qu'on pense que c'est les bonnes règles du jeu qui respectent l'éthique de notre société et nos utilisateurs. Mais demain, on pense que ces règles du jeu-là vont être imposées par Apple à tout le monde. Et du coup, on jouera, entre guillemets, à armes égales avec d'autres annonceurs sur Internet. C'est-à-dire qu'on n'aura plus cette enchère à la collection de la data et au repartage de la data sur Facebook ou les autres plateformes de ads. Et donc, du coup, normalement, ça sera une très bonne nouvelle pour tout le monde.
Je vais avoir d'autres questions. Avant d'y aller, à la fois, je te sens, tu vois, au début, notamment de cet échange, un peu distant, c'est-à-dire à pas t'engager parce que tu dis « je ne suis pas contre ces plateformes, je veux juste expliquer ce qui s'y passe et faciliter le fait d'arrêter ou d'autoriser certains accès à certaines choses. Donc ça, je comprends que tu te mets pas en opposition à ces titans du numérique. Et à la fois, tu te dis bon, nous, on s'astreint à un certain nombre de choses et ton business est quand même un peu c'est un positionnement. Enfin, c'est compliqué au quotidien ou parce que tu pourrais te mettre en mode bâton de pèlerin. Avec Jumbo, je vais à l'encontre de tout ça, mais comme on peut plus s'en passer, enfin, tu vois, tu pourrais être plus hardcore dans la communication.
Il y a un ami qui appelait ça, qui me disait qu'il faudrait que ce soit plus punk.
Ouais.
Oui, ça serait un positionnement marketing. C'est pas le positionnement marketing qu'on a choisi, parce qu'encore une fois, ces services sont gratuits. Ils peuvent bénéficier du coup à des gens qui n'auraient pas forcément les moyens de payer l'équivalent en euros ou en dollars pour ces services-là. Et donc nous, notre but, c'est pas de les combattre en soi. On pense que ça peut être des très bons business en étant plus responsable de la vie privée et en collectant du coup moins de data ou en redonnant en tout cas plus de contrôle aux utilisateurs. Après.
D'où le Pardon, mais je reviens sur l'analogie que tu as faite tout à l'heure qui était très intéressante hein, sur les labos, pharma ou même les industriels dans l'ensemble ou les centrales nucléaires. Donc, tu dis en gros, bon, bah, on ne peut pas reverser, tout ça est normé, etc. Et en gros, et c'est ce que je lisais hein, en préparant tout ça, hein, sur le, quand on parle des années 2020, c'est qu'on considère plus ou moins que jusque maintenant, c'était le Far West, que tout ça a éclos dans les 15 pour Facebook, 20 pour Google, un peu plus pour Microsoft, mais pas tant que ça en fait, dernières années. Et que là, il y a un moment, il va falloir juste se dire, bon, avant peut-être de mettre des règles déjà, éduquer et au-delà des règles à imposer, déjà dire Mathieu Stéphanie, j'accepte ou non la règle que tu me proposes ou que tu m'imposes, que tu me mets de base, quoi, c'est ça, et que dont je suis pas trop au courant.
Ouais, je pense qu'il y aura un recalibrage sur le sujet de la vie privée sur Internet, parce qu'on a vu en fait que ça allait probablement trop loin. On a vu les dérives de cette collection de data sans limite. Et donc, c'est pour ça qu'il y a en Europe le GDPR, qui est un texte du Parlement européen.
Le RGPD, ouais.
Le RGPD, exactement, pour redonner un certain nombre de droits sur les données aux utilisateurs à qui ces données appartiennent. On a eu la même chose en Californie avec le CCPA. Et donc, on a, en fait, probablement depuis Cambridge Analytica, la réalisation qu'il faut faire attention sur le sujet. Et donc, du coup, on a des regulations, on a des journalistes qui se penchent sur le sujet, on a des utilisateurs qui veulent reprendre le contrôle. Mais c'est sûr que le produit, par exemple, si on prend le point de vue de Jumbo, il y aura énormément d'évolution à faire dans notre produit, puisque ce qu'on fait aujourd'hui n'aura plus de sens demain, puisqu'en fait, le monde du marketing va changer, et donc les data qu'on collecte aujourd'hui sur vous, sur lesquels Jumbo peut vous protéger, demain ça sera plus un souci, ça sera tant mieux. Et donc en fait, évidemment notre on espère que le sujet de la vie privée sur Internet devienne de manière générale un sujet qui est plus facile à gérer pour tout le monde, et que ce qu'on fait aujourd'hui chez Jumbo ne soit même plus relevant dans quelques années, parce qu'il y a même plus le problème de base. Et donc ça sera à nous aussi de nous réinventer, mais ça sera une bonne chose pour la vie privée de manière générale. Que en fait, il n'y ait même plus ce risque-là et qu'il n'y ait même plus à utiliser Jumbo pour se protéger. Mais que ça soit directement.
T'as une vague idée des vagues de réinvention que tu peux avoir derrière, justement, ou vous êtes projeté un peu plus loin, ou là vous êtes vraiment dans déjà la V2.
On regardera comment ça va évoluer, mais je suis pas naïf sur le fait que nous, en tant que société, en tout cas. Quand le sujet de vie privée va devenir important pour tout le monde, plus ça va être un marché qui va être compétitif, mais plus ça va être aussi pour l'utilisateur final un monde meilleur, parce qu'on aura plus de protection par défaut sur sa vie privée. Ce que je disais par exemple avec Apple, ce qu'ils font sur iOS 14, ils vont introduire des nouveaux paramètres de confidentialité, ils vont introduire de nouveaux paramètres pour partager sa location de manière pas précise, enfin tu vois, de partager une zone, au lieu de partager ta location précise, tu vas pouvoir partager une zone. Donc Apple fait sa part du chemin, il y a d'autres sociétés qui font une partie du travail, et donc nous on doit en permanence se réinventer pour protéger toujours nos utilisateurs sur ce qui est relevant, mais on espère évidemment que peut-être en 2030 il n'y aura plus de Jumbo,
je te le souhaite pas non plus complètement, mais Google une version évoluée.
En tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui n'aura plus de sens pour les utilisateurs, parce qu'on espère que l'environnement réglementaire et les comportements par défaut des sociétés seront déjà beaucoup plus respectueux de la vie privée. Mais effectivement, on a eu une période d'excès et maintenant on est en train de mettre un peu tout ça au clair.
J'ai une bonne question de Josiane Asman juste après que je te pose, mais je voudrais juste avoir une intime conviction sur... Parce que l'approche d'Apple, quand même, elle peut paraître aussi assez marketing. C'est-à-dire que on peut se dire, option 1, soit Apple se dit, en fait, je fais ça parce que j'ai évolué, je suis arrivé à maturité, et voilà. Mais comme déjà, ils vivent que très peu de la publicité et qu'ils sont plus dans le hardware et un peu de soft qu'ils vont louer éventuellement, on peut se dire aussi que 2, c'est une manière de se mettre vraiment en opposition à justement aux autres, alors Apple, à Google et Facebook en particulier, et Amazon qui vient aussi petit à petit, mais en disant, attendez, moi, regardez, je ne vais vraiment pas là-dedans, votre data, elle est à vous, moi, je suis vraiment en opposition à tout ça, donc venez chez Apple, parce que si vous voulez être en sécurité, c'est chez moi, chez les autres, vous vendez votre âme, quoi. C'est un peu ça, non, aussi. Donc, il y a peut-être peu de chances que les autres les suivent.
Je pense pas que ça soit comme ça. De mon point de vue, en ayant regardé l'industrie, je pense que y a en fait justement cette ligne à définir entre ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la publicité plus responsable de la vie privée ou de la publicité plus éthique dans la question. C'est qu'en fait, ce modèle-là, il est tout à fait possible, en fait. On peut tout à fait faire de la publicité sur Internet et être responsable du point de vue de la vie privée et éthique. Et donc, c'est ce que Apple fait. Apple, quand vous êtes sur l'App Store, vous cherchez un mot-clé, vous cherchez méditation. Aujourd'hui, vous allez avoir une pub en haut. La première app, le premier résultat, ça va être une pub. Ils ont un système qui s'appelle Search Ads qui permet de faire de la publicité sur l'App Store à partir d'un mot-clé, exactement comme Google. Sauf qu'en fait, chez Apple, les datas qui sont données aux annonceurs quand ils font ces campagnes sont extrêmement limitées. Les systèmes de tracking sont extrêmement limités. Et donc, en fait, ils ont déjà défini leur set de règles avec lesquelles ils étaient d'accord pour faire cette plateforme, mais qui est une plateforme de publicité. Donc, en fait, encore une fois, il faut être précis sur le fait qu'on peut tout à fait faire de la publicité en ligne sans avoir un problème de vie privée et sans over-collecter les datas sur ses utilisateurs et sans avoir ce système de ce que je disais de en fait, une app de, par exemple, e-commerce qui redonne de l'information sur vous à Facebook pour vous réafficher de la pub sur Facebook. Et donc, en fait, mais c'est juste qu'il faut décider, en fait. Mais le modèle est tout à fait possible. Et c'est pour ça que Apple, à mon avis, va continuer à grossir le chiffre d'affaires qu'ils font sur la publicité en ligne, notamment les publicités pour les applications dans l'App Store, mais d'une manière que je trouve, en tout cas, respectueuse de la vie privée des utilisateurs. Et donc, c'est tout à fait possible que Facebook fasse la même chose et que les autres vont être aussi, d'ailleurs, forcés avec iOS 14 à commencer à faire la même chose. Et on verra que c'est tout à fait possible d'avoir un modèle où les boîtes comme Facebook et Google vous proposent de la publicité. Et il ne sera peut-être pas aussi rentable. Encore une fois, on revient à l'analogie de la centrale nucléaire qui serait beaucoup plus rentable si on s'occupait pas des déchets. Ça serait aussi beaucoup plus rentable. Les vols seraient moins chers entre Paris et Barcelone si on s'occupait pas de la maintenance des ailes, la maintenance des moteurs et des pneus. Mais c'est pour ça que cette question-là, on l'a déjà écartée de l'optimisation du chiffre d'affaires d'une société par rapport à ce qu'on veut collectivement faire. Et ça pourrait rester des modèles extrêmement rentables. Et donc, c'est pour ça que Apple, oui, ils n'ont pas une incentive parce qu'ils font la majorité de leur argent sur autre chose que les ads, mais ils font des ads, en fait. Et quand ils font des ads, ils les font d'une certaine manière. Et donc, c'est ce, à mon avis, vers quoi l'industrie va aller.
Josiane, donc, qui pose cette question, quel serait justement le premier geste à faire dès maintenant qui serait simple et rapide pour protéger ses données personnelles? Alors, j'avais la réponse à cette question, mais elle a mis entre parenthèses, à part s'inscrire sur Jumbo. Donc, voilà, là, je suis collé. Je sais pas s'il y a d'autres, enfin, tu veux que je...
La réalité, c'est qu'on est, on est aujourd'hui les premiers sur le marché. Et donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'outil comme Jumbo qui vous permettrait de scanner vos paramètres de confidentialité sur plus de 10 services maintenant, de, comme on en discutait, de supprimer vos contenus, vos vieux contenus sur Twitter, Facebook ou Instagram. On a aussi toute une fonctionnalité de sécurité pour aider nos utilisateurs à activer l'authentification en deux temps et le monitoring des flux de données sur le dark web. Donc, ce qu'on peut faire pour protéger sa vie privée, on peut regarder, par exemple, le moteur de recherche DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche qui ne traque pas ses utilisateurs. Et donc, les pubs, encore une fois, un bon exemple de modèle où la publicité est contextuelle et donc n'a pas besoin de savoir plus d'informations que simplement le mot-clé que vous avez mis dans la barre de recherche quand vous cherchez sur DuckDuckGo. Et c'est une boîte tout à fait rentable. Ça prouve que le modèle est possible. Et sur donc c'est DuckDuckGo.com, comme moteur de recherche. Et ensuite, on a aussi des applications de messagerie, comme par exemple Signal, qui est extrêmement populaire et qui est une fondation fiable qui met à disposition l'outil de messaging qui remplace par exemple WhatsApp, qui est aussi encrypté de bout en bout. Et donc ça, c'est par exemple deux outils qu'on peut regarder. Après, c'est des outils qui vous font changer vos habitudes. Vous devez passer à un nouveau service. Et nous, ce qu'on a décidé au début de Jumbo, c'est pas d'aller sur ce marché-là, de créer un produit qui vous ferait changer une habitude pour un produit qui est plus respectueux de vos vies privées. On a pris l'autre partie du marché qui est vous protéger là où vous êtes déjà. Et donc, c'est deux approches un peu différentes, mais je recommande ces deux services, DuckDuckGo et Signal, pour les gens qui veulent sortir de Google, ou de WhatsApp.
Alors, Jérôme Péranic a posé deux questions assez techniques. Ça m'étonne pas de lui. Je sais pas si tu le connais, mais il dit aucun SDK dans l'application, semble-t-il. Faut rappeler
chez nous
SDK et rappeler ce que c'est qu'un SDK et s'il y en a et s'il y en a pas, pourquoi.
Ah oui, alors le SDK, c'est justement l'implémentation technique de ce que je disais dans l'exemple que je donnais, où vous téléchargez un jeu vidéo et vous êtes venu de ce jeu vidéo à partir d'une publicité Facebook. Et en fait, dans cette application de jeu vidéo, vous avez le SDK de Facebook, donc il y a une partie dans le jeu vidéo qui est en fait du code qui a été écrit par les ingénieurs chez Facebook, qui justement permet à Facebook de renvoyer l'information chez Facebook en disant cet utilisateur a ouvert l'application, jeu X, il l'a ouvert à telle heure. Ils incluent évidemment, comme tu disais, plein de métadatas sur ton téléphone, est-ce que tu es chez Orange ou chez Bouygues, combien de... Enfin, c'est assez hallucinant ce qu'ils collectent en plus. Et ils le font en fait pour pouvoir attribuer la publicité, c'est-à-dire savoir si tu as cliqué sur une pub avant d'ouvrir cette application de jeu vidéo, parce que c'est comme ça qu'ils monétisent Facebook. Donc ils ont besoin de savoir si tu es venu d'une publicité de chez eux ou pas. Mais en plus, ils utilisent ça pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'application, le jeu vidéo, va pouvoir envoyer des data à Facebook en disant « ça, c'est un bon utilisateur ». Et du coup, Facebook, après, utilise ces signaux pour afficher de la publicité aux gens qui sont similaires à ce qu'on disait avec les lookalike audience. Donc le SDK, c'est la solution technique qui permet quelque chose que les gens ne comprennent pas. En fait, pour beaucoup, ça ne fait pas de sens. Quand on est sur un jeu vidéo d'une marque Y, le fait qu'ils partagent des informations avec Facebook, en fait, sans que ça soit explicite, ça paraît complètement surréaliste. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ont l'impression, à tort, mais ils ont l'impression que le microphone les écoute. Il y a ces histoires de je parlais d'un truc dans une application. Enfin, j'ai jamais dit à Facebook que j'étais intéressé par ce truc-là, et je retrouve une publicité sur Facebook à propos de ce truc-là. C'est parce qu'en fait, Facebook récolte. C'est pas d'ailleurs que la faute de Facebook, hein, bien au contraire. C'est tout le monde qui participe à l'écosystème envoie des datas à Facebook. En envoyant des datas sur cet utilisateur, il a fait ça chez moi. Par exemple, il a recherché sur ses chaussures. Et donc, même si vous n'êtes pas logué sur cette application de chaussures, vous vous retrouvez avec du coup des publicités dans votre feed Facebook. Donc, encore une fois, nous, ce qu'on critique, c'est cette boucle de feedback où vous n'êtes pas au courant qu'une application tierce renvoie des datas à Facebook pour mieux cibler les publicités sur Facebook.
Et donc, évidemment, nous, on ne le sait pas. Pardon. Ouais.
Excuse-moi, juste pour. Donc, évidemment, nous, on le fait pas. Évidemment, pour des raisons de vie privée, mais aussi pour des raisons de sécurité. Parce que, comme je disais, tout ce qu'on fait chez Jumbo et sur le téléphone, il est extrêmement important pour nous qu'on protège très bien le code source de l'application sur le téléphone pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Donc, on est extrêmement strict sur les SDK qu'on utilise. Évidemment, il n'y a aucun SDK de tracking chez Jumbo.
Je pourrais me mettre en opposition, et d'ailleurs beaucoup le font. Je suis plus mitigé en ce qui me concerne, mais à ce que tu dis, parce qu'en intro, je te dis bon, tu me réponds à ma question. En fait, on peut un peu se dire bon, moi je m'en fiche un peu. Et tu me dis mais est-ce que t'as un code sur ton téléphone? Est-ce que t'aimerais que tout le monde puisse lire tes messages? Mais en fait, il y a un peu toute une partie des gens qui se disent mais c'est pas tout le monde, c'est des machines. Donc, en fait, que des machines lisent mes messages, que toutes ces données transitent, en fait, de ces applis qui machin. Si à la fin, ça me donne une pub, une promotion qui me donne un avantage sur un truc ou qui me fait découvrir un produit que je n'avais pas vu et que je ne connaissais pas, fine, en fait. Puis en plus, je leur donne tout ça. Finalement, tu vois, enfin.
Où est le mal?
Tant pis, tant mieux, où est le mal, quoi, tu vois. Ces gens-là, tu dis, bon, écoute, fine, c'est alors, t'es au courant, tu le sais, et puis t'as rien à faire avec Jumbo ou tu crois qu'ils sont dans le faux?
Ah non, je pense que c'est une très bonne question. On l'entend régulièrement quand on discute du projet. C'est soit des gens qui n'ont pas encore vu l'étendue du problème. Donc effectivement, te convaincre de prendre un médicament quand t'es pas convaincu de ce que tu as comme maladie entre guillemets, c'est compliqué. Et donc dans ce cas-là, c'est un travail d'éducation qu'on fait justement pour expliquer, par exemple ce que j'ai expliqué aujourd'hui en disant pourquoi est-ce que vous avez l'impression que votre téléphone vous écoute, parce que justement il y a ces data qui sont partagées entre une application tierce et Facebook, qui était quelque chose que vous saviez peut-être pas. Donc en fait il y a une partie éducation. En fait, quand les gens ne savent pas ce qui est fait aujourd'hui de leur data sur Internet, ils ont aucune raison de se préoccuper du sujet. En fait, on a plein d'autres choses à faire dans sa vie que de se préoccuper du sujet de la vie privée sur Internet. Et donc ça, c'est un premier point sur l'éducation, qui est un sujet du coup qui est, par exemple, moi ce que je dis, c'est que cette boîte Jumbo n'aurait pas été possible avant Cambridge Analytica. Et c'est aussi le faire la boîte au bon moment par rapport au marché, c'est-à-dire que il y aurait pas eu Cambridge Analytica, qui est pas un sujet que de vie privée d'ailleurs, mais il y aurait pas eu dans les médias les articles et donc du coup l'éducation du grand public sur le sujet. Bon, bah Jumbo serait passé aux oubliettes. Et donc on est aussi dans une phase d'éducation du marché. Il y a des gens qui vont dire moi j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, j'y crois pas, je pense que c'est une cause perdue et donc ils vont pas utiliser le produit. Il y a de plus en plus de gens qui se disent ok, j'ai compris, peut-être parce que j'ai vu une histoire de quelqu'un qui cherchait un job et en fait il s'est fait reprocher un truc sur Facebook il y a 10 ans ou un tweet et du coup il a pas eu le job qu'il voulait, ou quelqu'un qui a justement eu un problème de réputation quand il était déjà en poste à cause de quelque chose qu'il a dit il y a 10 ans qui représente pas qui il est. D'autres, ça peut être des gens pour qui se sont fait il y a beaucoup de cas aux États-Unis de gens qui se font usurper leur identité sur Internet ou qui font réutiliser un mot de passe dans une application, il y a une data breach et du coup les data sont perdues, quelqu'un accède à votre compte sur Facebook ou sur Google et se fait passer pour vous, etc. Donc en fait, parfois c'est juste le fait qu'il y a de plus en plus d'exemples dans la vie de tous les jours qui font que les gens se disent, effectivement il y a quelque chose à gérer, mais effectivement on est dans une phase d'éducation du marché. Mais je pense pas que ça soit parce que les gens soient d'accord que leur data soit partagée à droite et à gauche sans qu'ils le contrôlent. Je pense que c'est parce que juste c'est un sujet qui peut être juste compliqué à appréhender et donc parfois on a juste pas envie de se prendre la tête et on veut juste se dire bon bah je vais continuer comme avant. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on utilise ces produits au jour le jour des potentiels risques de continuer à avoir tout ce contenu-là forever sur soi. Et donc, il y a une partie d'éducation, ouais. Et c'est tout à fait logique, ouais.
Surtout que il y a aussi après des forces supérieures, entre guillemets, qui peuvent utiliser toutes ces datas dans une certaine mesure. Ce que je veux dire, c'est qu'on a entendu la NSA, on a entendu les liens qu'il peut y avoir entre certaines organisations privées et des États, et puis on peut parler aussi potentiellement d'usage d'aspiration massive de, je sais pas, d'images et de liens entre je sais pas, des images de toi ou de moi qui seraient sur Google Images, et puis que tu arrives en Chine et puis que les Chinois savent déjà qui tu es, ce que tu fais en ligne, ce que tu as fait depuis 10 ans ou 15 ans sur machin, le comportemental, etc. Donc ça existe, c'est une réalité aujourd'hui, hein. Donc il y a potentiellement des usages indirects qu'on ne connaît pas. C'est aussi une des choses, je pense, implicites dans le projet, non ?
Oui, et je pense que pour moi, c'est toujours fondamentalement une question de friction. Ce que je veux dire par là, c'est que on sait que gérer sa vie privée sur Internet, c'est une vraie galère. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas commencer à le faire. Parce que déjà, avant, ils ne savaient pas où commencer. Parce qu'après, ils disent, ça va prendre des heures.
Ouais.
Exactement. Et donc, c'est d'abord pour nous un sujet de simplicité. De simplicité du produit, en fait. De vraiment. Et donc, ce qu'on faisait avec Sunrise dans la simplicité de la gestion du temps, on essaie de l'amener avec les mêmes principes dans la gestion de la vie privée. Mais c'est
je
ça,
le rappelle,
en fait.
Mais c'était vraiment un des atouts énormes que tu avais créé avec Sunrise, c'est juste faire un calendrier. Tout le monde avait un calendrier, on en a parlé dans le précédent épisode, mais juste, t'es arrivé, on te disait, tiens, vas-y, prends Sunrise, tu vas voir, c'est super. Tu dis, ouais, vas-y, j'essaye, mais bon, ça va, c'est un calendrier. Et puis en fait, tu savais pas pourquoi, mais en fait, Sunrise était mieux, quoi. Et c'était vraiment je pense la crème de la crème de l'UX. C'est la même équipe qui bosse sur Jumbo.
On a
toi déjà.
Moi voilà, mais après sinon c'est une équipe différente qui bosse dessus, mais ils sont tout aussi talentueux. Et on a effectivement la même exigence au niveau simplicité. Et je pense que c'est ça à mon avis la clé. Ce qu'on minimise dans la vie de manière générale, mais ça c'est un peu un de mes sujets de réflexion sur comment est-ce que je choisis des idées de produits, c'est la friction. C'est en fait le si vous regardez un peu les dernières années, Uber n'a pas inventé le fait d'aller d'un endroit A à un endroit B. ils ont diminué très fortement la friction qu'il y avait. Avant, il fallait sortir dehors, à New York, par exemple. À Paris, c'était encore plus compliqué. Il y avait le temps d'attendre dehors. On ne savait pas où était le taxi, on ne savait pas quand est-ce qu'il arrivait, on ne savait pas s'il prenait la carte bleue, on ne savait pas si on allait prendre le chemin le plus rapide. Mais ils n'ont pas inventé le fait de prendre une voiture pour aller d'un endroit A à un point B. C'est pareil avec Deliveroo, c'est pareil avec... Donc la friction, c'est ça qu'Amazon a inventé le one click. Parce qu'on comprend bien qu'aujourd'hui sur Internet, si on fait un truc en trois clics, c'est deux clics de trop. Et donc tout est une question de friction et donc d'expérience utilisateur et de simplification. Et si on arrive à craquer ce code-là, eh ben on peut, à mon avis, unlocker de nouveaux marchés où avant ça nous paraissait impossible à faire, mais où demain ça fait un clic sur son téléphone et on est protégé.
On a et eu c'est... ce débat avec Laurent Kretz, mon associé que tu connais un peu, oui, sur Jumbo, et qui me dit ouais, mais bon, c'est quand même relou parce que il faut passer au moins, il faut passer quand même un bon bout de temps pour. Et je lui dis ouais, mais imagine, et c'est exactement ça, hein, la difficulté de votre exercice. C'est imagine si tu devais le faire vraiment plateforme par plateforme, ce serait probablement 100 ou 1000 fois plus de temps. Donc, et comme vous le vendez bien, j'imagine aussi une des choses qui est intéressante dans ce frictionless, c'est que Jumbo a une vocation à s'effacer, c'est-à-dire que une fois que t'as rempli tout ça, après tu
ça,
connais ce que je veux, et derrière Jumbo, je vais pas le re-remplir toutes les deux semaines ou quoi. Éventuellement, tu peux me redire tiens, il y a ça de nouveau, mais en l'occurrence c'est enregistré quoi.
Exactement, et ça c'est un point très important, ce qui est du coup différent par rapport à ce qu'on essaie de faire avec Sunrise. Où Sunrise, on faisait un calendrier, donc le calendrier tu reviens dans l'application tous les jours. Là, au contraire, le but de Jumbo, c'est de vous faire revenir le moins possible dans le produit. Parce que c'est pas quelque chose de bénéfique pour nous de faire passer du temps dans le produit. On vend pas de publicité. Et donc, notre optimisation pour nous en interne, c'est de faire que le produit ait de la valeur, même quand vous n'êtes pas sur Jumbo. C'est ce qu'on fait avec le monitoring. Et donc, on utilise des notifications pour vous tenir au courant de ce qu'on fait chaque semaine. On envoie ça le dimanche soir. Et en fait, on peut être utilisateur de Jumbo, tout à fait satisfait avec Jumbo qui monite ses comptes, sans jamais avoir à ouvrir l'app. Et ça, c'est un point extrêmement important qui va justement dans ce qu'on dit de simplicité. Et on a aussi fait la décision, ce que je disais tout à l'heure, c'est nous, on a pris le parti que demander aux gens de changer de service, c'était déjà trop compliqué. Donc, on préfère vous dire, continuez à utiliser Google, qui est dans tous les cas le meilleur moteur de recherche. Et par contre, contrôler ce que vous partagez avec Google. Et donc, on aurait pu prendre des voies complètement différentes. On aurait pu dire switcher tout sur un autre moteur de recherche. Et on a toujours pris on a pris depuis le début ce parti pris de dire on va vous accompagner là où vous êtes parce que c'est plus simple pour vous de ne pas changer vos habitudes. Et on va aussi se mettre en retrait comme application et vous prendre un minimum de temps. Mais effectivement, il y a une première session avec Jumbo quand on connecte là pour la première fois, qui dure à peu près, on va dire, 10 minutes, ça dépend de combien de services il faut connecter, qui est assez longue, mais qu'il faut faire une fois. Après, on reste connecté avec ses comptes sur Jumbo et donc nous, on peut monitorer dans le background. Et ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important quand on réfléchit à en tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis quand je réfléchis à des produits. C'est que souvent, en fait, les produits que vous voyez, c'est pas des nouveaux usages. C'est très rare qu'on invente des nouveaux usages. Les gens ne changent pas d'habitude de ce qu'ils veulent faire. Ce qui se passe, c'est que, par contre, on rend quelque chose qui était compliqué facile. Et ça crée, en fait, énormément d'opportunités. Et on voit d'ailleurs beaucoup de nouveaux projets qui sont basés juste Alan. Par exemple, je connais très bien Jean-Charles de Alan. C'est une assurance santé. Ça existait avant Alan. Mais le faire aussi simplement qu'Alan, bah, ça n'existait pas. Et ça fait toute la différence, en fait. Encore une fois, parce que je pense que les gens ont autre chose à faire que rester au téléphone avec leur mutuelle. Ils ont autre chose à faire que passer des heures sur les privacy settings de Facebook. Et donc, enlever de la friction dans ces expériences-là, c'est un point qui est extrêmement important dans le développement, à mon avis, de nos produits.
Tu es investisseur chez Alan ou pas ? Ah, alors je le sors un dimanche, tu vois, personne ne le sait, mais je sors cet épisode que j'ai tourné la semaine dernière dimanche avec Jean-Charles. Et honnêtement, je suis sorti de là en me disant, J'aurais bien aimé être un early investor d'Alan parce que je pense que lui, il va aller dans le CAC 40. Il est parti là comme ça. Cet épisode est fantastique. Si tu l'écoutes, si tu as l'occasion, tu me feras un feedback. Petite réaction, tu as 4-5 minutes de plus. On s'était dit de donner une heure, ouais.
Il est 7h du matin. Mais donc...
Je sais que tu es à cheval sur l'organisation, le perso. Tu as peut-être une séance de méditation, quelque chose de prévu. Donc,
merci de demander.
Je me permets de rebondir là-dessus et j'ai en plus une ou deux questions aussi, Anselme, après derrière. En fait, moi, je te souhaite, comme à tout le monde que je reçois ici, parce que je reçois des gens que j'aime bien, donc de réussir là-dedans, mais surtout parce que aussi la curiosité de réussir même très très fort avec Jumbo, parce que la curiosité me pique de savoir en fait. Qu'est-ce qui peut se passer si vous cartonnez, mais genre au-delà de l'entendement, tu vois ? Est-ce que tu peux te retrouver, je sais pas, enfin, ça peut vraiment saouler Google. Je veux dire, je parle de Google, mais Facebook aussi, mais Google, tu vois, moi, j'ai un téléphone Android. J'ai installé une appli sur un environnement Google et qui peut, entre guillemets, leur nuire, tu vois, et donc c'est quand même des méta-entreprises, enfin c'est vraiment des espèces de, et je pense que Google est une très bonne entreprise, j'ai pas de, tu vois, mais il y a un moment où quand tu te sens un peu attaqué sur un truc qui est tellement core business, tu peux dire attends, t'es gentil là, mais t'es en train de me supprimer 4, 5, 6, 8% de mon chiffre d'affaires parce que tout le monde coupe mes données avec ton truc. Fait chier, quoi, tu vois. Ça peut être assez rigolo. Tu as pensé aux options qui peuvent se passer ou là, tu te dis non, déjà, faisons cartonner, puis on verra si ça arrive un jour.
Oui, et puis surtout, nous, on travaille pas pour Google. Moi, j'ai pas d'action de Google. J'ai aucun. Nous, on est juste là pour donner aux gens les moyens de reprendre le contrôle. Donc, si les gens décident qu'ils veulent partager moins de données avec Facebook, c'est pas Jumbo qui prend la décision pour le. On change aucun settings de manière automatique.
Donc, mais eux, ce qu'ils veulent, s'ils le facilitent pas, c'est justement que ce soit pas facilité, quoi.
Oui, bon. Mais nous, c'est leur business. Nous, on a un autre business. et donc, tu vois, chacun fait son produit pour ses clients. Nous, les clients, c'est les gens qui utilisent Jumbo. Eux, ils font un produit pour leurs clients qui sont leurs annonceurs. C'est logique en fait. Il y a rien de surprenant.
Non. Mais je suis convaincu que Google il va quand même se coller sur ceux qui ont le plus de traction. C'est-à-dire que je sais pas si tu fais TikTok par exemple pour l'instant, mais si tu le fais pas, tu vas être obligé de le faire dans 2 mois.
Mais je pense que je suis convaincu que Google peut être un très bon business en ayant moins de data sur ses utilisateurs. D'ailleurs, Google a été un très bon business pendant plein d'années au début. Quand ils faisaient juste de la publicité, donc qu'on appelle contextuelle, c'est-à-dire quand vous tapiez quelque chose sur Google, comme une voiture, vous avez de la publicité pour les voitures. Et c'est tout. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et leur business model est déjà un business model excellent là-dessus. Je citais l'exemple de DuckDuckGo, qui fait ça comme modèle pour leur moteur de recherche, qui sont une boîte extrêmement profitable. Donc la publicité contextuelle est un modèle qui peut être absolument rentable pour les plateformes. Donc après, ça sera aux utilisateurs de décider. C'est justement, on veut passer dans un monde où plus de publicité contextuelle que de publicité ce qu'on appelle comportementale.
Anselme, donc, il pose cette question. Le design comportemental ou captologie est-il un sujet, une menace insidieuse qui pourrait jouer dans la gestion de la vie privée des individus ? Comment pouvez-vous lutter contre cette mauvaise utilisation du design et de l'UX ? Tu dois connaître
les plateformes qui utiliseraient ça
ou... Oui, peut-être, oui.
Nous, en fait, on est une couche d'attraction sur en fait l'interface des plateformes. Donc, dans Jumbo, quand vous scannez vos paramètres de fonctionnalité, que ce soit avec Facebook ou avec Google ou avec LinkedIn ou avec Twitter, nous, on a justement unifié tout ça dans une même interface. Donc, la complexité en fait des paramètres de confidentialité, de sécurité de chacune de ces plateformes, elle est abstraite en fait dans Jumbo puisqu'on a une interface pour tout contrôler. Donc, même si Facebook faisait en sorte que ce soit plus compliqué pour l'utilisateur de faire ça, nous, c'est notre travail. On arriverait à disséquer ce qu'il faut faire et on le représenterait d'une manière simple. Donc, c'est un peu moi le concept quand vous allez chez votre comptable en fait. Si vous allez chez votre comptable, vous n'avez pas besoin d'être au courant. de la dernière update du code du commerce ou du code des impôts sur quelle taxe il faut payer sur les CDI versus les CDD. En fait, vous faites juste confiance à votre comptable et qui vous propose une couche d'abstraction entre vous et un système complexe. Et c'est la même chose avec la vie privée avec Jumbo. Donc en fait, le système de vie privée peut devenir plus compliqué pour les utilisateurs de Jumbo. Ça change rien en fait. De ce point de vue-là, je pense que c'est une manière de répondre à la question.
Ok. Écoute, très bien. On arrive au bout de ce live. Je vais te poser une ou deux questions juste qu'on l'avait pour avoir un peu la suite de notre dernière échange. Alors, tu m'avais filé, figure-toi, et beaucoup de gens me l'avaient demandé. J'avais mis les liens sur l'épisode, mais pas mal de trucs d'un setup de bureau. J'avais bien aimé. Moi, j'utilise ta souris Anker, notamment. J'ai pas forcément le tapis, je bosse pas forcément beaucoup debout, mais voilà. T'as changé un peu ces setups? T'as des nouveaux outils bien sympas ou pas vraiment?
Alors, j'ai toujours mon bureau que je peux avec laquelle je peux changer la hauteur. J'en ai même un d'ailleurs quand je travaille remote là en Californie, j'en ai commandé un parce que je trouve qu'après quand on a commencé à l'utiliser, c'est assez difficile de revenir à être assis toute la journée, ce que je recommande pas. Ce que j'ai ajouté dans ce setup, c'est j'ai un espèce de
harnais, non,
que
peut-être
tu mets aux épaules qui en fait te redresse en fait.
Oui, ce qu'on les sportifs beaucoup.
Ouais. S'appelle
un harnais peut-être, je pense, non,
un harnais, oui, un truc, quelque chose qui te shoulder stand, je crois, ou genre que tes épaules soient bien en arrière et que tu aies une position un peu plus saine quand tu es debout, quand tu es devant ton ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose que je porte presque tous les jours quand je suis au bureau. Mais sinon, effectivement, je reviens sur mon warning à tout le monde sur si vous passez votre journée sur votre ordinateur, d'avoir un grand écran qui a la bonne hauteur par rapport à là où vous êtes, d'avoir un vrai clavier et pas un clavier d'ordinateur portable comme les claviers ergonomiques. Moi, j'utilise celui de Microsoft qui est très bien fait. La souris, vous avez la main comme ça plutôt que la main comme ça parce que c'est beaucoup plus agréable pour votre poignet. On passe tellement de temps, évidemment le stand-up desk c'est pour moi aussi indispensable avec le mat parce que sinon c'est un peu compliqué.
Pour être pieds nus sur le mat, c'est une sorte de matelas, enfin un truc où tu es debout plus soft, mm-hmm. quoi. Ouais. Je remettrai les liens de tout cela, et s'il nous en manque, je te redemanderai. Ouais.
Absolument. Et tu peux regarder les shoulders pour
Te le demanderai, c'est celui que tu utilises s'il est bien. Et dernier point, un bouquin peut-être que tu aurais lu récemment, un truc sympa, un podcast, je sais pas, un contenu que tu aurais à nous partager. Enfin, je te piège peut-être à 7h du mat. Mais...
Alors, il y a au niveau podcast, moi, que j'écoute aux US. Il y a celui de Kara Swisher avec Scott Galloway, parce que je trouve que les deux sont vraiment extrêmement drôles dans leur interaction. Ils ont cette espèce de jeu entre les deux. Et lui, c'est un personnage absolument. Je trouve qu'il est à mourir de rire. Et il est prof de marketing à NYU. Maintenant, il est assez connu parce qu'il a fait pas mal de vidéos. Où il prédisait certaines acquisitions, et donc il a ce podcast avec Kara Swisher qui était journaliste
Pivot.
Qui faisait des interviews exactement.
PIVOT, ouais, très bien.
Ouais. Et bouquin, non, ça fait quelques temps que j'ai pas trop lu de nouveaux bouquins. Donc là, tu me remets un petit peu de...
Ah, ben, c'est bien.
Un peu. Je vais quand même essayer de regarder un instant parce que je vais.
Je vais meubler en tout cas en attendant si tu veux et je vous invite vraiment à écouter le
ah oui il y en a oui
ah,
pardon
voilà.
En fait celui qui est celui que j'aime ce que j'aime beaucoup que j'ai redécouvert en fait c'est un monsieur qui s'appelle Clayton Christensen, qui malheureusement est décédé il y a pas très longtemps d'un cancer, je crois, qui était un professeur à Harvard, Christensen, et qui a écrit toute une série de sujets, de bouquins sur l'innovation, notamment un bouquin qui s'appelle, qui parle du concept de jobs to be done. Okay. Et le concept de jobs to be done, ça veut dire, en fait, il dit, pour résumer son concept, c'est les gens n'achètent pas une perceuse, ils achètent un trou. Et ça, c'est assez intéressant comme concept quand on réfléchit à un sujet d'entrepreneuriat. C'est, en fait, les gens n'achètent pas Jumbo pour changer les paramètres de fonctionnalité. Ils achètent Jumbo pour avoir l'esprit tranquille quand ils vont sur Internet. Et nous, c'est ce qu'on vend, en fait. On vend peace of mind. On vend la tranquillité et de la sérénité. On vend pas le fait de changer les settings un par un. Et lui, ce qu'il dit, c'est, par exemple, il a fait beaucoup d'études sur pourquoi est-ce que les gens achètent un matelas. Et en fait, on se rend compte que les gens pensent que c'est une question de prix ou que c'est une question de... Évidemment, il y a des facteurs comme ça. Mais en fait, il y a souvent des facteurs humains qui sont qui peuvent être découverts qu'en faisant certains types d'interviews avec ses clients. Et c'est ce qu'il décrit dans ses bouquins, dans ses vidéos. Il notamment donne l'exemple de comment est-ce qu'il a interviewé des gens qui achetaient des milkshakes aux États-Unis le matin. Et en fait, il a compris pourquoi est-ce que les gens achètent le milkshake le matin, parce qu'on peut le boire à une main, parce qu'on peut le boire sur une période suffisamment longue. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'il explique dans sa méthode Jobs to be Done, qui est une méthode que Intercom a aussi utilisée sur leur marketing ensuite. Et c'est vraiment exceptionnel, et ça peut vraiment changer la manière dont vous regardez votre idée entrepreneuriale ou votre startup. C'est, en fait, pourquoi est-ce que les gens, ils l'appellent hired, quoi. Pourquoi est-ce que les gens sélectionnent ou recrutent votre outil? Et souvent, on a des réponses qui, en fait, sont pas les vraies raisons pour lesquelles les gens utilisent et hire nos produits. Et il décrit cette méthode-là, et je pense que c'est un des bouquins les plus qui m'a, moi, le plus marqué dans la manière dont on peut structurer ces projets entrepreneuriaux.
Competing Against Luck, j'ai l'impression que c'est le titre du livre. Ouais. Je vais juste imager un peu ce truc sur un projet qu'on a lancé, qui est live maintenant, qui s'appelle TrackPay. Et en fait, à l'origine, mon idée était de me dire, en fait, quand j'ai des clients qui ne me payent pas sur différents business qu'on avait, etc., c'est relou. À la fin, tu fais des mises en demeure, ça coûte hyper cher, alors que c'est toujours le même truc. Et pour le faire envoyer par un juriste ou un avocat ou machin, bah, ça te coûte un bras et demi, alors que c'est un texte à trous. J'exagère un peu, mais c'est pas loin d'être ça. Et du coup, on a fait un produit qui permettait de générer des mises en demeure. Et en fait, on s'en fout de la mise en demeure. C'est pas la mise en demeure le problème, mais il a fallu qu'on fasse cet outil, et c'est là où il faut prendre du recul quand même, ou faire ces interviews comme tu le dis. Ce qui compte à la fin, c'est d'être payé, en fait.
C'est d'être payé, exactement.
Et tout le reste, finalement, le chemin, on va chercher à optimiser ce chemin sans friction, ni d'ailleurs pour le débiteur ou le créditeur, mais plus juste pour être payé dans les temps, être le premier payé, le jour où tu as dit que tu serais payé, etc. Ça a donné lieu à ce truc qui s'appelle, à cette boîte qui s'appelle TrackPay. Petit instant promo, trackpay.io, mais qui est très bien. Mais en fait, voilà, et l'idée, c'est que ça marche. Maintenant, on est payé. Et la mise en demeure, à la limite, on n'en fait même plus, parce qu'on est payé bien avant d'arriver à l'étape de la mise en demeure. Donc, je t'en prie.
Non, c'est exactement ça. En fait, c'est souvent, en fait, quand les boîtes n'arrivent pas à passer à l'innovation d'après, c'est parce qu'elles ont oublié justement le jobs to be done. Par exemple, le jobs to be done du métro, c'est pas des stations, c'est pas des conducteurs de métro, c'est pas des billets. Le jobs done du métro, c'est d'aller d'un point A à un point B. Donc, en fait, quand on voit ça, on voit qu'en fait le métro compite avec marché, avec les vélos, donc peut-être qu'il devrait faire des vélos, avec des e-bikes, avec des scooters, parce que, en fait, moi, ce que je veux en tant que consommateur quand je prends le métro, c'est pas un wagon avec un siège, c'est une solution qui m'amène d'un point A à un point B. Et donc, en fait, ça permet, en fait, de voir assez différemment, en fait, la compétition. Et comme tu dis, par exemple, quand tu travailles sur ton sujet, au début, ça commence par les mises en demeure. Et en fait, tu te rends compte que ce que les clients veulent, c'est d'être payé à temps. Et donc, ça se trouve, ce que tu fais 2 ans après, c'est pas du tout des mises en demeure, mais c'est un système de facturation qui est clair sur les conditions et qui fait que les gens sont payés en temps et en heure et qu'il n'y a même plus besoin des mises en demeure. Et ça, c'est du coup ce qu'il explique très bien dans son bouquin. Et il a aussi des vidéos sur YouTube où il donne son bouquin en version vidéo. Et c'est quelqu'un d'assez incroyable, je trouve, sur justement quelque part, c'est aussi le marketing, quoi, ce sujet-là. Et comment interviewer ses utilisateurs pour comprendre quelles sont les forces derrière les décisions d'achat et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec l'outil qu'on utilise.
Je savais que j'aurais des bons inputs, donc on a bien fait d'attendre toujours de la part de Pierre Valade, donc je suis content. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi, Pierre. Jean-Charles, que tu citais tout à l'heure, je suis à peu près certain, Jean-Charles Samuelian de Alan, donc il a lu tout ça, parce que vu la masse de livres dont il me parle là-dedans, il m'a impressionné. Je pense qu'il a à peu près lu tout ce genre de choses, donc voilà. Belle transition pour ce prochain épisode que je te recommande et que je vous recommande tous. Je te remercie de t'être levé à 5h30, quelque chose comme ça, quand même, pour nous, pour moi. Un grand merci, Pierre. Tu bois un milkshake, toi aussi, d'ailleurs, ou pas?
Oui, le matin, c'est toujours le milkshake que je fais le matin. C'est devenu mon petit déjeuner.
Ok, bon, écoute, sur ce beau milkshake, je te dis à bientôt. Ça s'appelle, sinon, hein, tous, Jumbo. On l'a pas dit, mais on paye ce qu'on veut, c'est ça. Et si on n'a pas d'argent, on peut aussi demander une approche gratuite, parce que j'aime bien là que vous considérez que quelqu'un qui a pas d'argent a quand même le droit de protéger sa vie privée. J'aime beaucoup cette approche aussi. C'est disponible sur iOS, sur Android, et testez-le. Ça vous coûtera pas grand-chose au début, et puis après, payez-les quand même si ça vous plaît, quoi. Merci Pierre. Et merci Zoé Villain, parce que tu connais cette histoire de Zoé Villain et Zoé Villain ou pas, non?
Oui, oui.
Oui, t'as compris. Donc moi je suis perdu, mais voilà, je vous remercie.
Une usurpation d'identité sur Internet.
Et voilà, usurpation d'identité. Je remercie aussi Aurélie Gamero d'avoir produit tout ça. Voilà, mes chers acolytes, et je vous dis à dimanche sur Génération Future Self. Salut Pierre.
À bientôt. Ciao. Ouais.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.